Voilà. C'est toujours un plaisir, un enthousiasme de se remettre devant la personne de Dieu, dans sa présence, et de faire confiance à ce qu'il a à nous dire. On n'est jamais que des serviteurs inutiles, je me plais à le dire, des vases d'argile, on est faible, et c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant de se dire que Dieu peut nous utiliser. Moi, toi, toi. Et les jours viennent où Dieu va utiliser chacun. C'est un petit peu le thème de ce que j'ai à vous partager ce matin. C'est de prendre conscience de l'importance d'être disponible à Dieu. C'est comme un clavier en fait. Il y a plusieurs notes. Il y a des blanches, des noires, il y a des dièses, il y a plein de notes. Et Dieu joue ce qu'il a envie de jouer au moment où il a envie de le faire. Et des fois, quand on n'est pas utilisé pendant longtemps, comme touche, comme note, le do là-bas au fond, là, très aigu, ou le si là-bas, très bas, on se dit, voilà, Dieu m'a oublié, etc. Mais il faut toujours se tenir prêt, parce qu'à un moment donné, dans la partition que Dieu fait pour le siècle dans lequel on est, pour cette terre, il va nous utiliser. Quoi. C'est sûr, c'est sûr. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est comme un bon chasseur, hein, le mauvais chasseur, le bon chasseur. Il faut toujours être attentif. Parce que Dieu, à un moment donné, et souvent quand ça vient nous surprendre le plus, vous savez, on a tendance à se dire, Dieu m'utilisera quand je serai prêt, quand j'aurai arrêté de manger trop de chocolat, quand je serai enfin saint. La sanctification, que celui qui est saint se sanctifie encore, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Donc si vous attendez d'être prêt pour que Dieu vous utilise, vous pouvez attendre un petit bout de temps. Et c'est un privilège de savoir que Dieu utilise des fois, des bras cassés. Hein. C'est comme l'armée de David, c'était des bras cassés. C'était des gens qui n'étaient pas compétents pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais Dieu nous donne la compétence dont on a besoin. Et c'est souvent dans des moments où on est le plus brisé, où on se sent le moins apte à faire quelque chose. C'est le cas pour moi ce matin. Je me dis, je me présente devant vous, vous êtes là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je dirai ce que le Seigneur me mettra à cœur de vous dire. Déjà, je vais me présenter, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Beaucoup. Thierry Ostrini. Ostrini, qui c'est origine italienne. Hein. J'ai grandi en Suisse. Hein. Donc le Seigneur m'a changé de bain. Il m'a trempé dans plusieurs... Je n'ai jamais grandi en Italie. Je ne parle pas un mot d'italien, donc je ne vais pas bluffer. Et puis de la Suisse, je suis parti à Paris, à Bruxelles. Et maintenant, je suis à Strasbourg. Donc je me plais à dire que je suis européen. Mais je suis surtout citoyen du ciel. Mon appartenance est en Christ, c'est mon identité. Alors, parce que les cultures, il y a à prendre, il y a à boire et à manger. Hein. La Belgique, la Suisse, la France, chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. C'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Mais là, je viens de Strasbourg, enfin au nord de Strasbourg, ceux qui connaissent un peu l'Alsace. Il y a un village, une ancienne fortification romaine qui s'appelle Brumath. Et il y a une église là-bas et je suis chantre à tiers-temps, à Brumath. Et la vision qui date maintenant d'il y a 10 ans, cette église, moi j'étais à Paris à l'époque, je me doutais de rien. J'étais encore dans le groupe EXO. Qui c'est qui connaît le groupe EXO? Ben, on a chanté quelques chants, donc si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être les chants sans le savoir. Et on a collaboré pendant des années. Et à un moment donné, le Seigneur fait quelque chose qui est, il nous prend, il nous retire de quelque chose qui a fonctionné. Et puis il ne nous dit pas forcément ce qui va arriver après. Et là, les gens vous disent « Ah oui, tu fais une carrière solo maintenant ?» Je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est à ce moment-là qu'une église à Strasbourg m'a contacté. J'avais rencontré un des anciens maintenant de l'église de Brumath qui avait pour vision de restaurer justement les chantres dans l'église. C'est assez général comme ça, je ne veux pas vous parler de moi trop longtemps, mais sachez au moins ça. Et un autre ancien dans l'église avait reçu pour l'église qu'il fallait défricher un champ nouveau. Comme dans Osée, le livre de la Bible, il s'agit de défricher un champ nouveau. Donc défricher un champ nouveau, on ne sait toujours pas ce qu'on va y planter, mais il y a du boulot. Donc en fait, j'ai été contacté, j'étais à Paris à l'époque, dans une église en banlieue de Paris, et cette église me dit, voilà, on a cette vision de défricher un champ nouveau, et il y a une autre vision de restaurer les chantres, et on se dit que peut-être ça peut avoir à voir avec toi, avec ta venue en Alsace. Donc j'ai tout quitté pour aller défricher un champ nouveau en Alsace. Et pendant 2 ans, je n'ai pas écrit une ligne, aucun chant. Sec, sec, sec. Plus rien. Quand on arrive dans une église, et déjà pour défricher un chant nouveau, c'est pas très clair, et les gens vous disent, mais avec l'accent alsacien, que je ne sais pas bien faire, mais il parle un peu comme ça. Ils disent, mais alors on encage ce chantre, qu'est-ce qu'il fait hein? Et moi, je ne voulais pas inventer, c'est important ce que je vous dis là, je ne voulais pas inventer une fonction, inventer quelque chose pour répondre à la demande des gens. Il y a une pression qui est très forte. Ça a coûté très cher à Saül d'ailleurs ça. Saül a perdu sa royauté parce qu'il y avait une pression et il a pris la place de quelqu'un d'autre. Il a fait ce qui était assigné au prophète Samuel. Il l'a fait à sa place parce que les gens autour de lui, il y avait une pression. Vous savez ce que je veux dire hein? Quand il y a une pression, c'est très facile de devenir quelqu'un d'autre. C'est très difficile de rester soi-même. Donc 2 ans, ça paraît court dans une vie. Mais moi, je pensais que j'allais me remettre à écrire des chants en me disant, c'est ça mon talent. Et je vais sûrement défricher un chant nouveau avec ça. Et le Seigneur avait autre chose en tête. Et ce matin, j'ai envie de vous exhorter à travers ce témoignage-là, mais à travers quelques passages dans l'Écriture, où on s'aperçoit que, sans s'en rendre compte, quand Dieu fait quelque chose de nouveau, on met du temps à le comprendre. On reproduit les schémas qu'on connaît, parce qu'ils ont fonctionné à une époque. Quelque part, on sent bien que ça ne fonctionne plus, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Je me mets à la place de Moïse quand il s'est retrouvé devant les flots. Il n'y avait pas la Bible qui lui disait que d'autres avaient vu les flots s'écarter. On ne sait pas ce que Dieu va faire. Et ça demande une vigilance et une authenticité. Et on va avoir besoin de ça, chacun d'entre nous. On ne peut plus se reposer sur les pasteurs, sur les enseignants, sur les évangélistes, sur les autres ministères. On ne peut plus se reposer sur eux de manière passive, sans se dire qu'à un moment donné, on va être cela. On va être utilisé par Dieu et on ne saura pas comment faire. Tant mieux qu'on ne sait pas comment faire. Mais attendre les réponses des autres, je ne suis pas en train de parler du fait qu'il ne faut plus qu'il y ait de pasteurs, il ne faut plus qu'il y ait d'enseignants, il ne faut plus qu'il y ait de prophètes, il ne faut plus qu'il y ait d'apôtres, il ne faut plus qu'il y ait de docteurs. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rester assis sur sa chaise en disant que tout repose sur leurs épaules, quoi. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Cette nuit, je me suis réveillé et j'ai réalisé quelque chose. Nous sommes le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu. Le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu. Ce n'est pas nous qui invoquons uniquement le nom de Dieu. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Ça, c'est notre travail. On invoque le Seigneur, mais quand nous, on ne l'invoque pas, il y a quelque chose qui est invoqué quand même. Parce que Dieu a choisi son peuple. Nous sommes le peuple sur qui est invoqué son nom. Et ça concerne la terre entière, ça concerne les ténèbres. Les gens savent que nous appartenons à Christ. Les ténèbres savent que nous appartenons à Christ. C'est comme le serviteur Job, hein, qui Dieu dit, « Voici, regarde mon serviteur Job. » On est tendu comme ça, face à une hostilité redoutable, et Dieu en plus nous présente comme le peuple sur qui est invoqué notre nom, son nom. On porte le nom de Dieu. Nous sommes ministres du Seigneur. Ça veut dire que les gens, quand ils nous voient, qu'on dise « je crois en Jésus » ou pas, etc., il y a quelque chose spirituellement, ils le savent. Pour autant que nous appartenons à Dieu. Ça, c'est notre travail. C'est une soumission totale, je trouve, moi. On appartient à Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a une responsabilité par rapport à son nom de faire son travail à travers nous. Il ne va pas le faire avec quelqu'un d'autre, hein. Il l'a fait à travers Christ, il nous a donné l'Esprit pour que nous soyons cette lumière dans ce monde-là. Et il y a des oppositions, hein. D'accord ? Nous sommes le peuple, c'est ce qui m'est venu cette nuit, je me disais, il faut que je leur dise ça aussi. Hein. Je dis en vrac un peu tout ce qui me passe par la tête, vous verrez, à la fin, ça se met ensemble, vous allez comprendre à quel point c'est important. Parce qu'on se sent responsable de quelque chose. La seule responsabilité qu'on a, j'aime bien ce mot en anglais, responsible. Responsible. Able, ça veut dire capable. Response, c'est réponse, c'est répondre. On doit juste être capable de répondre à qui ? À Dieu. On doit être capable de répondre à Dieu. Aujourd'hui, ce que ça veut dire être responsable, ça veut dire être responsable, hein. Père de famille, je suis responsable. Chef d'entreprise, je suis responsable. On peut être responsable de plein de choses si on n'est pas capable de répondre à Dieu. On n'est responsable de rien du tout. On se donne des étiquettes, on se donne de la valeur, on se sent responsable. Et parfois même dans l'église, on se sent responsable de l'église. Hey, le patron, c'est Jésus. C'est lui qui va faire de vous une épouse sans rides et sans tache. Parce que humainement, ce n'est pas possible. C'est lui qui travaille. Et quand j'ai compris ça, moi, ça m'a déchargé d'un gros fardeau où je me disais, en fait, si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Ce n'est pas complètement faux, mais en même temps, c'est se donner beaucoup d'importance. On est des serviteurs inutiles. En principe, on devrait être assez détendu. Je disais hier au groupe de jeunes, de savoir qu'on est co-héritier en Christ, de tout ce qui est en Christ, hein, dont cette phrase du Seigneur, Dieu le Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc toute l'affection de celui qui a créé tout l'univers est en Christ Jésus, et nous sommes au bénéfice de la même phrase. Tu es la fille bien-aimée du Seigneur en qui il a mis toute son affection. C'est vous dire combien il nous aime. Donc face à l'opposition qui peut venir de nos collègues de travail, du diable en personne et de toute la légion des démons, il n'y a qu'à se tenir devant. Je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant, en qui il a mis toute son affection. Ça vous pose un problème? Adressez-vous au patron, ma vie ne m'appartient plus.
Ça permet d'être assez relax. Au lieu de se forger une espèce de spiritualité avec des bouts de ficelle, de tout ce qu'on entend sur Internet, avec, il y a du bon, il y a à boire et à manger, moi j'appelle ça des fois www.jetembrouille.com. On ne sait plus où on en est. Et maintenant on y va avec son caddie, on fait le plein de tout ce qu'on croit être une spiritualité. Et il faut être très prudent parce qu'on est dans un siècle de séduction profonde. Et la séduction, avant, on pouvait encore la voir venir, mais quand c'est à l'intérieur de l'Église même, l'intérieur de l'Église, avec tout ce qui se dit, moi, il y a des moments où je ne sais plus où j'en suis. Hein. Donc, j'ai une phrase qui résonne dans mes oreilles, je l'avais reçue en Guyane, jadis, « Toi, suis-moi. » Il faut quand même écouter ce qu'on nous dit, hein, parce que « Toi, suis-moi », c'est dangereux aussi, en fait. La communauté, en fait, c'est notre sécurité. De pouvoir échanger les uns les autres, confesser nos péchés, hein, être dans la vérité. Si tu es dans la lumière, comme Jésus est dans la lumière, tu es en relation. Mais si tu n'es pas dans la lumière, tu n'as plus de relation. On le sait, hein. On se coupe des autres, on se coupe du monde, on se coupe même de Dieu, parce qu'on n'est pas dans la lumière. Être dans la lumière, voilà, c'est aussi important que de savoir qu'on est aimé. Et finalement, je disais vendredi au groupe de louanges, connaître Dieu, on a beaucoup d'éléments pour le faire. On lit sa Bible, on cherche sa face. Ça prend des fois des saisons entières où Dieu ne nous parle pas. Ça prend des fois des passages dans la Bible qu'on ne comprend pas. On doit fouiller, on est des extracteurs là. On va au charbon, on cherche la vérité. Hein. C'est important de connaître Dieu, mais c'est aussi très important, et peut-être même plus, d'être connu de lui. Et je disais, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître Jésus? On peut lire, on peut apprendre, on peut avoir un enseignement, mais pour être connu de quelqu'un, comment on peut faire? Pour être connu de quelqu'un, on discutait, on a échangé un peu autour de ça. L'intimité, c'est important. Mais surtout, être soi-même. Être soi-même, on a beau se le dire, hein, on est tous plus ou moins soi-même, même dans des temps de prière où on est tout seul avec Dieu, qui n'est pas parfois dans une espèce de posture, un personnage qu'on s'invente comme ça. On se sent plus spirituel quand on jeûne et quand on prie que quand on s'assied pour boire une tasse de café, etc. Dieu veut être avec nous tous les jours. Et moi, j'ai vécu pendant longtemps avec des temps de prière le matin qui étaient plus ou moins bons. Je disais aux gens, j'ai eu un bon temps de prière avec le Seigneur ce matin. Comme si, en fait, ça se résumait aux 40 minutes que je passais avec lui le matin, puis qu'après je vivais le reste de ma journée, et en me recouchant, je me disais, oh là là, j'ai pas beaucoup pensé à Dieu aujourd'hui. Ça vous arrive ça aussi? Tout d'un coup, on arrive le soir, on se rappelle qu'on a prié le matin, et il y a une espèce de coupure entre les deux. C'est parce qu'on pense que Dieu va se manifester plus le matin quand on prie qu'au milieu de la journée, quand on est à notre bureau. Mais il ne change pas, lui. Prier sans cesse, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est chercher la présence de Dieu. Et moi, je me rappelle à une époque, j'avais dû, justement quand je suis arrivé à Brumath, que je n'écrivais plus un texte, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je priais le matin et quand je n'arrivais pas chez moi à trouver la présence de Dieu, selon quels critères, je ne sais pas, mais je me disais, non. Et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, et Dieu n'était pas dans le temps de prière le matin, et Dieu n'était pas dans ma lecture de la Bible. Alors je faisais, très intelligent, je prenais toutes mes affaires, ma guitare, ma Bible, et j'allais à l'église, en me disant, là, l'église, il y a plus de chances que ça se passe. Église, même chose, je cherchais Dieu, etc. Et quand encore ça ne marchait pas, j'allais dans une petite chapelle, perdue au fin fond de l'Alsace, dont la porte était ouverte, et j'allais là-dedans, et je finissais, je vous dis, à plat ventre, en train de pleurer. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi tu me résistes? À une époque, je priais moins, je lisais moins ma Bible, et tu m'apparaissais plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et pendant des semaines, le même cirque. Et un jour, j'étais en train de faire le plein dans ma voiture, là, comme ça, en train de penser à rien du tout, à mille lieues de m'imaginer que Dieu pourrait se révéler à moi pendant que je faisais le plein. À la limite, c'est de la pollution. On se dit, voilà, ça, c'est des trucs qu'on fait, c'est notre boulot d'homme. Hein. Et boum, il me parle d'un truc, une question que j'avais depuis des semaines dans mes temps de prière où il ne m'avait pas répondu. Et c'est la première fois que je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu parlerait dans une station-service? Qu'est-ce à dire? Dieu parlerait au supermarché? Mais comment ça? Je ne suis pas concentré, je suis pas, je me suis pas mis en posture spirituelle. Mais les temps viennent, enfin ils sont déjà là, mais je crois qu'on doit décloisonner nos schémas. Et voyez, même pour des hommes de Dieu consacrés comme Samuel. Samuel, le prophète, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Il entend la voix de Dieu, réflexe, il fait ce qu'il a toujours fait. Il va vers Élie. Mais voici, il le réveille pendant la nuit. Élie, qui ne doit pas avoir la conscience tranquille parce qu'il est dans une période un peu trouble avec ses fils. Il ne sait rien. Non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Ouh! Voilà, être présent à soi-même, c'est aussi ça. Il faut juste que je ne perde pas le fil, parce que ça swing, c'est bon? Vous avez deux nouveaux messages. Ouais. Être attentif, en fait, voilà, je profite de l'occasion, c'est ça aussi. C'est que quelque chose peut survenir où Dieu vous interpelle. Moi, ça m'arrive quand je prêche où tout d'un coup, il y a un truc qui se passe qui n'est pas prévu. Et je me dis, ça, c'est important que je le dise. Mais là, je ne suis pas sûr. À part le swing que ça m'a donné envie de jouer la guitare. Je reviens à mes moutons. Samuel, Samuel. Trois fois de suite, ça se passe. C'est en fait exactement ce qui se passe dans nos vies. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Samuel ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et il va trois fois de suite vers Élie. Ça nous arrive tout le temps, ça. Jusqu'au moment où tout d'un coup, on se dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on retourne. Heureusement, là, c'est Élie qui lui dit, si jamais ça se reproduit une quatrième fois, tend l'oreille et répond, me voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Changement, changement de réflexe. Et parce que Dieu, il attend ce moment-là pour faire ce qu'il a à faire à ce moment-là. Il y a le même passage, très différent dans les circonstances, où Élie, après qu'il ait confronté les prophètes de Baal, se retrouve dans une détresse, il est persécuté par Jézabel, Akab et compagnie. Il finit dans le désert, vous connaissez le passage, il arrive dans une espèce de caverne, une grotte, réfugié, ça vous est peut-être arrivé spirituellement à un moment donné, on est enfermé, on est replié sur soi-même, il y a quelque chose qui nous fait peur, on n'a aucune raison d'avoir peur, c'est le cas pour Élie. Et j'ai le passage ici, mais je crois que c'est Deux Rois, si quelqu'un peut le chercher, vous le trouverez. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu fait un tremblement de terre et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Vous connaissez le passage, ça vous dit quelque chose? Après une pluie, il y a du feu qui tombe du ciel et Dieu n'était pas dans le feu, etc. Et après, il entend un doux murmure et on sent bien que c'est nouveau pour lui. Il n'avait jamais entendu ça. Dans ma version, c'est le son du silence. il entendit le son du silence. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi. J'ai fait ceci, je suis resté moi seul, tous les autres sont morts, etc. Et vous pouvez lire le passage, ça intervient à deux reprises. Dieu a beau se manifester, il est dans le même schéma. J'ai déployé mon zèle, Anna. Combien de fois on a dit ça aussi, nous, hein, dans l'église? Ah oh, Seigneur, des années que je te sers, on est dans des schémas. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin, il y a un moment donné, le réveil dont tout le monde parle depuis que je suis converti, j'ai jamais vu l'ombre d'un poil de réveil. Moi, j'attends ça. Mais qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas ce que j'attends. Mais j'attends quelque chose. Ce n'est pas normal que cette parole, qui est une puissance, n'ait pas d'action dans nos vies, au point que les gens se disent, qui est celui-là? D'où il sort? Parce que je crois qu'on ne mange pas cette parole et qu'on ne laisse pas Dieu nous transformer parce qu'on est dans des schémas. On se dit, Dieu a fait des choses comme ceci, il va forcément les faire comme cela. Et il le fait, à un moment donné, il arrête de le faire. Moi, j'ai mis des années à comprendre que Dieu m'attendait ailleurs, autrement. Parce que ce qui se passe, c'est quand on quitte quelque chose qui correspond à une identité en Christ, on a l'impression de lui tourner le dos. On a l'impression de trahir une forme de loyauté. On a l'impression de trahir quelque chose qui était une vérité à un moment donné et qui mue, qui change de forme. Ça reste le même Dieu, le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le thème de ma prédication. Ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Nous, on reproduit comme Samuel, « Me voici car tu m'as appelé. Me voici car tu m'as appelé. Me voici car tu m'as appelé. » Jusqu'au moment où il comprend qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Élie, j'ai déployé mon zèle pour toi. J'ai déployé mon zèle pour toi. On reste dans quelque chose qui est une ornière. Et Dieu est patient. Il nous laisse X fois reproduire la même chose jusqu'au moment où on comprend que quelque chose a changé et qu'on doit changer aussi. Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. C'est quitter les schémas qu'on a là-dedans. Nous, on se retrouve dans mon église. On est sans pasteur depuis 2 ans. Et ça déstabilise toute l'église parce qu'ils ont toujours connu ce schéma avec un pasteur. Donc on est un groupement d'anciens et j'en fais partie, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il se trouve que je suis ancien dans cette église-là. Et on a la moitié de l'église qui dit « Ah, c'est super, une église sans pasteur, on va pouvoir faire, on va changer quelque chose. Ouais. » Puis l'autre moitié disait « Quand c'est qu'on a un nouveau pasteur ?» Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le garant de la doctrine, il faut bien qu'il y ait un pasteur, des choses comme ça. Et surtout, on nous demande « C'est quoi la vision ?» On nous demande ça tout le temps. « C'est quoi la vision ?» Et nous, on ne va pas commencer à inventer une vision pour rassurer les gens. On se met devant Dieu et Dieu ne nous donne pas le truc en disant « Faut que je vous le donne aujourd'hui parce que demain, il y aura Madame Machin et Monsieur un truc qui vont de nouveau vous dire « C'est quoi la vision ?» Parce que sinon, moi, je quitte l'église ou nanana. Et il y a une pression, c'est la même que celle que Saül a subie, hein, j'en parlais tout à l'heure, la même. Il y a une pression comme ça du peuple de Dieu qui « Alors, qu'est-ce qu'on devient, nous ?» Mais enfin... Dieu ne s'occupe pas de chacun de ses enfants? Dieu ne s'occupe pas de son église? Il a perdu le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Et à un moment donné, je comprends que ça stresse, mais on est dans un changement et on a enfin reçu quelque chose en commun, parce qu'on est déjà 5 anciens, donc déjà pour tomber d'accord sur quelque chose qui concernerait la vision de Dieu, accroche-toi Jeannot, il y a celui-là qui est plutôt, comment ça s'appelle, plutôt cessationniste. C'est-à-dire qu'en fait, les dons de l'esprit ont cessé à l'époque des actes. Ah d'accord. Puis un autre qui est là du style, non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, les dons sont les mêmes, etc. Et on a ça au milieu du groupe d'anciens. Hein. Et dans l'église, je ne vous raconte pas, ça se multiplie par autant d'individus qu'il y a, et tout ce qu'on va pomper sur Internet, chacun, on est devenu chacun le pape de son propre Vatican. Hein. On construit notre petite théologie, etc. Et du coup, quand on est confronté à une autre théologie, on dit, non, mais attends, lui, hein, il a une doctrine de fou. Hein. Et en fait, est-ce que c'est très important ça? On sait que de toute façon, il y a toujours une coquille dans la pâte à crêpes. Hein. Dans toutes les églises, il y a des erreurs. Toutes. Et on est beaucoup plus adroit pour voir dans la vie des autres, dans l'église d'à côté, ce qui ne va pas. Mais je veux dire, pas un qui ne fasse le bien, pas même un seul, hein, ça remet l'église au milieu du village. Dieu ne fait exception de personne, c'est son travail. Hein. Qui es-tu? Toi qui juges ton frère. S'il est tombé, Dieu le relèvera en son temps. Nous, on est des spécialistes pour voir tout ce qui ne va pas. C'est l'affaire du Seigneur Jésus. il se relèvera. Il y en a peut-être qui vont tomber, il y en a peut-être qui seront séduits, beaucoup seront séduits dans la fin des temps, ça fait partie, on le sait. Mais est-ce que nous, on est responsable de ça? On est responsable de son frère et de sa sœur, mais responsable d'être lumière pour lui, celle de la terre pour les autres, etc. C'est tout. On ne va pas commencer à corriger tout le monde, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Priez plutôt. En fait, plus on prie, moins on critique en général. Parce qu'on réalise à qui on a affaire concernant notre propre personne, il y a déjà du boulot. Donc ce renouvellement de l'intelligence, ces schémas qu'on a dans la tête, c'est très important dans les temps qui viennent de se dire « Me voici Seigneur, comme Samuel, me voici. Parle, ton serviteur écoute. » En fait, j'aurais envie de dire, je pourrais m'arrêter là, « Parle, ton serviteur écoute. » C'est la base du truc. Et Dieu ne parle pas tout le temps à tort et à travers. Mais il va parler à chacun. Comptez pas forcément sur quelqu'un d'autre pour que Dieu lui parle à votre place. Obéir, si on ne peut pas obéir, si on n'a pas une parole du Seigneur, il faut quelque chose. Moi, j'étais obsédé avec ça. C'est-à-dire, parle-moi, si tu ne me parles pas, à quoi tu veux que j'obéisse? Alors oui, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ok, pratiquer la justice, que tu aimes la miséricorde, ah oui, c'est déjà plus complexe, aimer la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En principe, ça devrait suffire. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, mais on a quand même besoin de direction dans nos vies. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, parle-moi. J'ai la moitié de mes chants, à l'époque, je ne les chante pas parce que les gens me disent, on dirait que tu es déprimé. Ils n'ont pas lu les Lamentations de Jérémie, sans doute. Ils n'ont pas vu les prophètes qui disent « ôte-moi la vie, Seigneur, il y a des moments, on en a marre hein, d'être serviteur inutile, d'être un pot que Dieu malaxe, qui l'écrase, qui remonte, qui met à sécher, etc. » On a envie d'être utilisé, nous. Mais ça prend du temps, avant que Dieu, tout d'un coup, nous utilise. Et c'est pas... Il y a des gens qui... on va voir ça. Il y a des gens qui se convertissent un mardi, maintenant, et le mercredi, ils sont en train de prier dans les grandes surfaces, et les gens sont guéris. Moi, je vois ça, je dis ça, c'est génial. Moi, quand je me suis converti, j'avais envie de me faire baptiser tout de suite. On m'a dit non, il faut d'abord que tu rentres dans ton pays, que tu demandes à un responsable d'église. J'ai fini par aller me faire baptiser tout seul dans le noir, la nuit, j'ai attendu la nuit. Je me suis mis dans l'eau tout seul, je suis ressorti. Après, j'ai fait les choses cachères, officielles. Je suis passé dans une baignoire, c'était un peu moins sexy, mais bon, voilà. Plouf, avec des gens qui chantaient dans une salle de bain serrée comme ça. Moi, je voulais un petit lac de montagne. Avec un névé comme ça, je me dis, c'est comme un mariage quand même, on va pas faire ça avec des frites, quoi. Et non. Et puis voilà, je me suis dit, c'est sans doute quelque chose de humble, dans une baignoire, avec des gens qui chantent, loin de chez moi. Tant pis pour mon lac de montagne, je le ferai peut-être un jour en cachette, je sais pas. Mais il y a quelque chose, quand on découvre Dieu, qui est un zèle. On a envie de tout bouffer. On fait des bêtises, mais au moins, on mange cette parole. On découvre des trucs. On réalise à quel point on est pécheur. L'esprit est là, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est plus après, mais on se tempère. On m'a dit, il faut que tu fasses une école. D'accord. Jeunesse en mission ? D'accord. C'est où ? À Hawaï. D'accord. Ouais. Bon, c'était dur là-bas. Hein. C'est dur, on apprend à marcher avec Dieu, mais bon, il y a quand même la mer, les palmiers. C'est sympa. Donc, on chemine avec Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le zèle qu'on a au début, on ne cherche pas trop à comprendre, on avance. Et après, on a des schémas. C'est inévitable. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, la première impression, on est plutôt ouvert, hein, ou plutôt fermé. Mais on a une première impression. Et quand Dieu nous demande de garder notre premier amour, hein, c'est important ça. Et quelque part, si on est honnête, tu lis ce passage, Dieu n'a pas d'exigence phénoménale. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est la loi et les prophètes. Tu dis, mais une carte postale aurait suffi. Pourquoi il y a tout ce bouquin-là? Parce que ce n'est pas si facile que ça pour nous, d'aimer. Hein? C'est compliqué. Et le renouvellement de l'intelligence, au moins il y a un grand pédagogue pour le renouvellement de l'intelligence, c'est justement l'amour. Si tu n'aimes, l'amour, l'espérance et la foi, hein, c'est pareil, c'est très simple au bout du compte. Ces choses-là demeureront, le reste, c'est juste pour apprendre à gérer nos voisins de palier, nos familles, enfin tout le stress d'être en église avec tous les problèmes que ça pose. Mais fondamentalement, c'est simple. Et le renouvellement de l'intelligence va passer par quelque chose qui est quoi? Si vous êtes renouvelé dans votre intelligence et que vous Vous ne laissez pas la parole remplir votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, à cette époque-là, je vous disais, je n'avais plus une parole du Seigneur, je m'asséchais, etc. C'est justement ce passage de Élie qui m'a mis la puce à l'oreille. Il entendit le son du silence. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, le silence, c'est aussi un langage de Dieu. Dieu parle avec le silence. Vous chantez juste une chanson parce que ça exprime exactement ça. Vous êtes d'accord? Soit. Vous endormez pas, c'est une balade. Hein. Alors ce chant n'est sur aucun album. Parce que j'ai appelé ça mes lamentations. Dieu aime qu'on soit vrai. Quand tout d'un coup, c'est des épreuves qui nous arrivent et qu'on commence à chanter du lever du soleil jusqu'à son coucher, il y a quelque chose qui n'est pas crédible. Et quand on est auteur-compositeur, il faut trouver sa propre musique. Et vous verrez, c'est plein d'espérance. En fait. Un silence plutôt que rien. Rien que l'ombre sans chemin. Sans toi. Ta présence, sinon rien. Je ne veux que ta main, que ta main. Ton regard plutôt que tout. Tout le reste autour de tout ce qui n'est pas. Ta présence et ton amour. Je ne veux que l'amour. L'amour, et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi, avide. Je ne veux que ton secours en moi. Être là. Plutôt qu'ailleurs, autre part que dans ce cœur qui bat, être moi sans avoir peur, conscient de t'avoir toi avec moi, et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours en moi. Et je ne m'encombre plus du vide, de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours. Ton secours en moi. Ton secours en moi. Comment on connaîtrait le secours de Dieu si on n'est pas tombé? Comment on connaîtrait la guérison de Dieu si on n'est pas malade à un moment donné? Comment on connaîtrait la rédemption de Dieu si on n'a pas perdu quelque chose? Comment on connaîtrait les miracles si on n'est pas face à notre incrédulité. Vous savez, notre vie, moi je dis tout le temps, notre propre vie, c'est le tableau de bord. C'est qu'il y a des moments, les gens ne le voient pas ça, mais on a des pensées, on a des émotions, on est trituré par plein de trucs, mais c'est le tableau de bord ça. C'est juste pour nous dire, il manque un peu d'huile, il manque un peu d'essence, attention, ton moteur chauffe, c'est pas grave de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. À partir du moment où on en parle à Dieu, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on le cache à Dieu lui-même et qu'on s'invente un personnage comme ça, bien spirituel, pour le dimanche, pour les temps de prière, puis qu'à côté, on continue à se comporter de la même manière. Et il y a des choses dans notre vie, des travers, comme je les appelle, qui durent sur des années et des mois. Moi, je pensais qu'en me convertissant, tout allait partir avec les eaux du baptême. C'est pour ça que j'étais pressé de le faire. Et il y a des choses qui sont restées. Je me dis, comment ça se fait? Je fais toutes choses nouvelles et je continue à voir des choses qui étaient d'avant. Mais dans les choses qui étaient d'avant, il y avait aussi des bonnes choses. Il y avait aussi des bonnes choses. Il ne faut pas jeter, hein, avec l'eau du baptême, ce que Dieu a construit dans notre vie. J'en parlais au groupe de jeunes hier. Moi, j'ai fait du théâtre pendant des années. C'était ma vie, le théâtre. Madame, voulez-vous que je vous parle net? Je vais la refaire. Hein. Vous vous troublez, changez de visage, lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages. C'était ma vie, ça. Je voulais être acteur, je voulais être sur scène, etc. Et quand je me suis converti, selon l'appellation contrôlée, je me suis dit, voilà, tout ça va partir. En même temps, c'est vrai que ça s'en va parce que ça ne correspond plus à notre identité. Donc je continuais, puis ça n'avait plus de sens. Donc j'ai fait autre chose, pas parce que c'est mauvais de faire du théâtre, non, parce que je cherchais autre chose. Mais toutes les années où j'ai fait de la scène, ça m'a appris quelque chose qui m'est utile maintenant quand je fais des concerts. Ça m'est utile d'être devant tout le monde qui me regarde comme ça et d'être détendu quand même. Je donne l'impression que je suis détendu, mais je ne suis pas détendu. Il y a quand même une responsabilité, mais c'est de faire en sorte que vous ayez l'impression que je le sois. Puis finalement, je me détends au fur et à mesure. Je vous vois sourire. Souriez un peu là. Voilà, fait du bien ça. Donc ce que Dieu fait dans nos vies, même quand on est, je dis ça pour des personnes qui ne sont peut-être pas croyantes ou qui le sont depuis pas longtemps, on a tendance à tout vouloir balayer de notre vie passée. Ça peut être affectif, ça peut être professionnel, mais au milieu de cette tambouille, de cette ratatouille d'avant, il y a des ingrédients que Dieu va utiliser et qu'il était déjà en train de façonner pour le royaume. Il nous connaît depuis la fondation du monde. Pourquoi on a autant de mal à accepter le fait qu'il sait ce qu'il fait? Et au milieu de choses où on se condamne soi-même, je ne suis même pas sûr que l'ennemi nous condamne plus que nous nous condamnons nous-mêmes. Mais il ne faut pas condamner ce qui est bon, il ne faut pas dire bien ce qui est mal, et il ne faut pas dire mal ce qui est bien. Hein, c'est dans la Bible ça aussi. Donc, le renouvellement de l'intelligence, tout ce que je vous chante là, ce chant-là, je l'ai écrit à la suite d'un temps de louange où j'avais ma guitare, comme je le disais l'autre jour, ma Bible, et j'étais bien spirituel. Et j'ai commencé, « Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. » Ça me fait du bien de chanter des chants comme ça. Et puis j'essayais d'en écrire. Et à un moment donné, je sentais bien que ça n'atteignait plus le plafond. Là. Ça me dépassait à peine. Et le Seigneur m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Bah, c'est un peu ce qu'il dit au prophète, hein, Isaïe. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Bah, j'ai déployé mon zèle, j'ai sorti ma rengaine. Là, Seigneur, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Le moulin parle, je te loue. J'ai ma Bible. Qu'est-ce que tu attends de plus ? Puis il m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu ferais si tu ne faisais pas ça ?» Oh, je ne savais plus trop, hein. Ben, probablement la même chose, mais autre. J'écrirais des chants, moi. J'écrirais des chants pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est là où mon cœur bat, moi. Parce que je faisais ça au début de ma conversion, moi. J'écrivais des chants en me disant, faut que je communique cet évangile à mes contemporains. Puis on m'a dit, oui, c'est bien Thierry, mais ce n'est pas de la louange. De la louange. Ah, c'est un style, c'est quoi? Ben, écoute ce CD, tu vas voir, c'est de la louange. Oh là 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 là. Je crois que c'est de la musique de Walt Disney, moi, des génériques de fin, là. Une musique gentillette avec des chœurs comme ça. Moi, j'aimais bien la funk, le jazz rock et des choses comme ça. Alors, je fais partie de cette génération de chrétiens qui a dû brûler ses CD, ses vinyles en l'occurrence, parce que ça venait du diable, la batterie et la guitare. 1989, je découvre l'église, moi, et la guitare et la batterie, c'est satanique. Ah, maintenant, s'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, ce n'est pas de la louange, hein. Depuis Hillsong, là, avec les guitares électriques, maintenant, quand il n'y a pas de guitare dans certains milieux, pas de guitare et pas de batterie, c'est pas de la louange. Donc, il faut en mettre pour que ça fasse la louange. Comme quoi, hein, les modes et les styles, ça change. Si vous vous attachez à ça, vous allez vite être perdu. Hein. J'ai dû brûler mes CD, etc., etc. Et moi, en fait, c'est ça. J'entre dans la foi chrétienne et je jette tout ce qui était mon passé. Mais dans mon passé, Dieu, à un moment donné, a dû reprendre des choses pour les reconstruire parce que je les avais détruites basées sur ce que je pensais être la vérité, la parole de Dieu. Soyez très attentifs à ça. Parce que si vous perdez ce qui est votre identité en étant chrétien, comptez pas sur Dieu pour pouvoir vous utiliser et être crédible aux yeux des hommes. La société dans laquelle on est, s'il y a une chose auquel ils sont sensibles, c'est l'autorité que vous avez quand vous parlez. Si vous êtes... Vous imitez quelqu'un d'autre, ils savent ce que c'est là-bas, dans le monde. Si vous, vous croyez qu'en témoignant 10 fois dans la semaine, en parlant de Jésus à vos collègues de travail, puis que Jésus n'est pas incarné dans votre vie, c'est des cymbales hein, qui résonnent, ça ne sert à rien du tout. Mais le jour où vous êtes revêtu de l'autorité que vous avez déjà reçue, mais que votre parole est en adéquation avec votre cœur, et que votre bouche parle de l'abondance de votre cœur, hein, c'est-à-dire que vous êtes rempli de quelque chose, là, ils réagissent. Hein. Alors, ils réagissent parfois négativement, mais ils réagissent au moins à quelque chose, pas juste à un discours. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, si ça ne passe pas par le cœur, et pas juste le cœur, l'abondance du cœur, c'est comme une barrique qu'il faut remplir, et c'est comme un barrage, hein, c'est quand c'est arrivé en haut que ça commence à être crédible, un barrage. Si c'est juste une petite flaque au fond, ça ne suffit pas. Les chants que j'écris ici, quand Dieu m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « je fais ce que je suis supposé faire. » Et je dis « si je faisais quelque chose, j'écrirais des chants pour l'extérieur de l'église. » Entre parenthèses, j'ai pris celui-là, il vient de sortir, et je sais déjà que les gens vont l'acheter et me dire « ah oui, mais le chant numéro 3, il ne parle pas de Jésus, le chant numéro 5, etc. » C'est une commande qu'une œuvre sociale m'a faite. Ils m'ont donné des sous pour que je fasse un CD, parce qu'ils logent des sans-abri. Ils logent des sans-abri, la plupart n'ont jamais entendu parler de Jésus, etc. Je ne vais pas commencer à leur faire « Oh Jésus, mon sauveur, kuramati shalakayana ». Ils ne comprennent pas ça. Donc j'ai essayé de prendre des chants qui parlent d'une réalité du monde et qui véhiculent une espérance. Parfois, c'est le chant numéro 4 qui va donner de l'espérance au chant numéro 3. Je vous explique tout ça, ça me fait du bien d'en parler, parce que ça va m'éviter que si vous l'achetez, il est à 10 euros, je profite, hein. Il y en a un autre, celui-là, c'est le résultat des 10 ans de travail à l'église évangélique de Brumath. On a écrit des chants pour l'église. Et je pense que ce que je fais, moi, comme artiste, tout le monde devrait le faire. On doit s'atteler et servir l'église, mais on doit aussi être attentif à ce qui se passe à l'extérieur de l'église. Et il faut être grec aux grecs, hébreu aux hébreux. Hein. Si vous arrivez avec un langage qu'ils ne comprennent pas, et que vous en apercevez même plus, c'est que vous avez passé trop de temps avec vos frères et sœurs dans l'église et que vous avez oublié que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y a des gens qui sont en train de périr à côté. Et je vous dis, moi, à force qu'on me dise au début de ma foi chrétienne, oui, mais c'est pas de la louange, c'est pas le bon style, c'est pas le bon truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu quelqu'un d'autre, en fait. Et j'ai servi avec Exo, vous connaissez les chants, il y a la plume, il y a quelque chose que je cherche. Et tous les chants qu'on a écrits avec Chris, je pensais, s'il y a une personne, un jour, qui tombe sur ce CD, il faut qu'il y ait suffisamment de qualité et que le message soit suffisamment clair et que ce ne soit pas des gribouillis spirituels, il faut que ce soit théologique, il faut que les gens puissent dire, ok, j'aime ou j'aime pas, mais il y a quelque chose là-dedans qui me touche. Je pense toujours à ceux qui sont à l'extérieur, toujours. Et des fois, je me dis, je passe trop de temps dans les églises. On ne se rend pas compte, à force d'avoir un discours entre nous, on devient un peu hermétique au discours des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'adopter. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde qu'on est du monde. Hein, vous connaissez ça. De l'abondance du cœur que votre bouche parle. Je fais ça, c'est une prière. Laissez-vous renouveler, mais individuellement, hein. Parce que Dieu va utiliser chacun. Il y a une moisson, elle est trop grande pour que ce soit juste le travail de quelques évangélistes hein, qu'on va faire venir des États-Unis, des choses comme ça. Cette époque-là, je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose. On va pouvoir utiliser des choses anciennes, mais Dieu va aussi utiliser des choses neuves. Soyez aussi attentifs à des gens qui se tournent vers Jésus hein, dans les jours qui viennent ou qui sont tournés vers Jésus il y a quelques semaines. Dieu va les utiliser beaucoup plus vite que moi j'ai été utilisé. Parce que moi, on me disait, il fallait que je me forme, il fallait que je fasse. Il faut bien se former théologiquement. Mais en principe, si vous avez reçu l'esprit, que vous lisez la parole, il y a une espèce de va-et-vient qui s'opère de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études, hein, mais je veux dire, en gros, quand on reçoit le Saint-Esprit, on voit ce qui cloche dans nos vies et on comprend la vérité. C'est le meilleur pédagogue qu'on puisse avoir. Hein. Le meilleur pédagogue. Avec l'éclairage du Saint-Esprit, sans l'éclairage du Saint-Esprit, c'est une lettre morte. Hein. Et la lettre sans l'esprit, on sait ce que ça fait. Ça tue. Les combats, les guéguerres théologiques dans les églises, ça tue. C'est l'esprit qui vivifie. La parole devrait toujours s'accompagner de l'esprit et toujours s'accompagner d'un cœur authentique. Amen. Yes. L'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, il y a un petit verset, c'est le seul que je vais lire peut-être, dans le Cantique des Cantiques. Écoutez bien ça. Je dis toujours, Il y a une époque, moi, j'apprenais des versets par cœur, et puis je me disais, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je réalise que dans la Bible, en prenant des angles, on prend un petit verset dans le Nouveau Testament, on en prend un autre dans l'Ancien Testament, on commence à comprendre qu'on le retrouve, il y a quelque chose qui se retrouve. Dieu révèle sa parole, mais des fois, il faut les gratter un peu, quoi. Il y a des versets qui ont l'air de rien, comme celui-là, c'est un petit exemple, hein. Mais peut-être ça vous arrive aussi à vous, des versets où vous dites, tiens, je ne l'avais jamais lu comme ça. Alors, c'est dans le chapitre 4, au verset 11. Le Cantique des Cantiques, ça m'a surpris quand je suis tombé sur ce livre, moi, au début de ma foi chrétienne. Je pensais que c'était un truc entre l'époux et l'épouse, ce n'était pas dans la Bible. C'était un sujet tabou. Hein. Le Cantique des Cantiques parle de quelque chose de très beau, entre l'intimité de Dieu et son épouse, l'Église, c'est nous. Hein. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Voilà, juste ça. Le lait et le miel, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? C'est quoi? C'est la terre promise. Et moi, tout d'un coup, je me suis dit, il y a sous ta langue du lait et du miel. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas, nous. Quand on a l'intelligence qui se renouvelle par la parole, l'abondance du cœur, hein, c'est quelque chose qui nous remplit. Hein. Quand vous lisez la Bible et que Dieu vous parle, ça vous fait ça? Moi, ça me fait ça. Ça me remplit, c'est comme si je mangeais quelque chose. Pas toujours, mais souvent c'est ça. Et puis, ça donne, on a envie d'en parler. Mais il y a quelque chose qui est là-dedans pour moi, c'est que les promesses de Dieu, il faut les mettre un petit peu sous la langue, comme ça. Il y a sous ta langue du lait et du miel. C'est la terre des promesses. Hein. Le pays où coule le lait et le miel, c'est la terre promise. Et quelque part, dans cette parole, il y a des promesses pour chacun d'entre nous. Et souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne médite pas la parole. Moi, je dis, il faut la mâchouiller. Il faut la garder un peu dans la bouche. Le contraire de ça, c'est, vous savez, dans les disputes, là, quand il y a des conflits, tout d'un coup, on dit un truc, hein, on se sent mal de l'avoir dit, et quelques heures après, voire le lendemain, on dit, excuse-moi, virgule, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'en l'occurrence, on n'a pas réfléchi. Mais c'est sûr qu'en période de conflit, ce qui sort, c'est ce que vous avez médité. Vous savez, il y a un collègue qui vous embête, etc. On peut tenir sa chic pendant longtemps, 10 ans, mais tout d'un coup, s'il y a un conflit, tu vas lui sortir tout ce que tu as médité, et ça va être violent. Vous voyez de quoi je parle? C'est si on ne médite pas le bien, on médite le mal. Et méditer le bien, c'est pour ça que je vous dis, en priant, ça évite beaucoup de critiques, beaucoup d'amertume, beaucoup de violence verbale, beaucoup de choses. Parce que méditer le bien, c'est garder sous sa langue les promesses de Dieu. Même s'il y a des situations dans nos vies qui vous paraissent inextricables, qui vous frustrent et qui nourrissent un certain type de pensée, qui donne d'ailleurs ce visage. Si vous méditez le bien, en principe, ça détend. C'est une nourriture, les promesses de Dieu. Parce qu'un jour, il le fera. C'est une espérance. C'est en espérance que nous sommes appelés. L'espérance, ce n'est pas naturel pour la chair. C'est du style, qu'est-ce que tu veux que j'espère? Il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé, et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu encore ça et ça. Il y a combien d'années que je prie pour ce truc-là? Rien ne s'est passé, tatata. C'est à la limite de dire, Dieu ne fait pas son boulot. Ça, ce n'est pas méditer les promesses. Parce que c'est en espérance qu'on est appelé. Dieu peut guérir d'une infirmité demain. Le but, ce n'est pas qu'il guérisse. Le but, c'est qu'il se manifeste. Et il y a des gens, moi j'ai une maladie chronique depuis mon adolescence, anti-inflammatoire tous les jours depuis des décennies. Et depuis cet été, il y a quelque chose qui se passe où ça n'a plus aucune valeur, ce truc. Avant, quand je partais en voyage, pour ceux qui ont des maladies chroniques, etc., qui ont des médicaments à prendre, s'il y a une chose que tu n'oublies pas en partant, c'est tes médicaments. Et là, je me suis retrouvé, je suis parti, j'ai dû prendre à l'arrache, à moto, je suis parti en Suisse, et je les ai oubliés. Et c'est même pas que je les ai oubliés, je n'y pense plus. Donc, parce que j'y pense plus, je les prends plus. Parce que je les prends plus, il doit y avoir un truc qui se passe, parce que normalement, si je les prenais pas, oh ! Mais même la douleur, c'est aussi des schémas. On s'habitue à ça. Je ne suis pas en train de vous dire, vous avez tort de vous plaindre, si vous avez mal, vous avez mal. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que ça. C'est la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas guéri aujourd'hui, qui vous dit que vous ne le serez pas à midi? Qui vous dit qu'au moment où Dieu intervient, il vous parle, il nourrit votre âme, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête qui va vous changer, qui va aller jusque dans votre cœur et nourrir votre bouche d'une parole? On a parlé de ça tout à l'heure. Prophétiser, parler, édifiez-vous. Parfois, le parler en langue, c'est ça que ça fait. On ne sait pas ce qu'on dit, mais on parle à Dieu. Moi, c'est sûr que là, c'est plus facile parce que je suis en train de parler la parole de Dieu, mais ça m'édifie. J'espère que ça vous édifie. Mais en vous édifiant, je m'édifie. Et en fait, c'est Dieu qui fait son travail. Il aime l'édification. Édifions-nous les uns les autres. Et encore une fois, ce n'est pas naturel. Je vais finir. Retenez bien ce verset dans le Cantique des Cantiques. Essayez d'avoir sous votre langue en permanence le résultat de l'abondance de votre cœur et du renouvellement de votre intelligence. Je répète, dans l'autre sens, laissez-vous renouveler dans votre schéma, dans ce que vous pensez de vous-même, dans ce que vous pensez de votre voisin, de votre couple, dans ce que vous pensez de votre rôle de père ou de mère, dans ce que vous pensez, et nourrissez-vous de ce que Dieu a comme promesse concernant ces sujets-là. Il n'y a pas un sujet qui lui échappe, pas un cheveu de votre tête qu'il ignore, d'accord? Et il y a quelque chose, pas juste dans sa parole écrite, dans sa parole vivante, dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il vous parle, ça peut être à travers n'importe quoi, votre enfant. S'il a même parlé à travers un âne pour un prophète dans l'Ancien Testament, il peut aussi bien vous faire parler. J'ai écrit une chanson là-dessus. C'est, il a créé toutes choses, elle les renouvelle chaque jour. Il a fait les flamants roses et le vert des arbres tout autour. Est-ce que le Seigneur est bon? Et les gens disent, oui, le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur est bon? Oui, le Seigneur est bon. Il nous prend dans nos faiblesses et les renouvelle chaque... Non, il nous prend dans nos faiblesses et nous renouvelle chaque jour. S'il a fait parler l'ânesse, il peut aussi bien vous faire parler. Un âne a parlé dans l'Ancien Testament. À combien plus forte raison le fils et la fille de Dieu peut utiliser sa bouche pour autre chose que les critiques, autre chose que les condamnations? C'est tellement simple. Et je vais finir avec cet exemple. Ouais, j'ai le temps encore. J'étais invité. J'aime bien ce passage parce que ça rend la chose vivante. On a besoin d'expériences. Certains plus que d'autres. Moi, j'ai besoin que Dieu me parle avec des expériences aussi. Sinon, je suis dans un rapport intellectuel à la Bible. Je répète mes versets, mais il faut qu'ils s'incarnent à un moment donné. Et là, c'est un espèce de truc qui se passe, qui est une combinaison sur tout un week-end que je fais à Paris. Comme ici, je devais juste intervenir la veille pour un repas de soutien pour Haïti. Vous savez, Haïti a subi des dommages, et même si ça fait il y a quelques années, on n'en parle plus trop, mais il y a quand même toujours du travail à faire là. Donc quelqu'un avait organisé un repas de soutien pour Haïti. Moi, j'étais un invité au milieu de tout ça. Et on m'avait dit, ça ne te dérange pas qu'il y ait de la danse aussi? Non, ça va, mais en général, la danse, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pas tout, à part les drapeaux, les banderoles, etc., je me dis, ok. Mais c'est toujours bizarre quand on ne sait pas à qui on a affaire et qu'il intervient juste avant une prestation, ça peut ruiner le truc, artistiquement, ou pas. Donc je dis ok. Et finalement, j'arrive, on mange, etc. Moi, je disais, c'est à quel moment que j'interviens? Oh, on va se laisser conduire par l'esprit. En même temps, le repas était bon, donc ça allait. Arrive le fromage et le dessert, enfin le truc comme ça, je commence à dire, c'est à quel moment que j'interviens? Écoute, tu vas intervenir après le couple de danseurs. Donc je me dis, je vais être tout au bout en fait, là les gens auront bien mangé, ils auront envie de rentrer chez eux, c'est pas idéal, mais bon. Et je me dis, Dieu sait en plus ce que ça va être, ce couple de danseurs, j'imaginais le pire. Mais voilà, j'avais pas nourri ma pensée de quelque chose de bon, comme du lait ou du miel, j'étais en train de me dire aïe, aïe, aïe. Et c'était pire que ce que je pensais parce que c'était excellent ce qu'ils ont fait. Tellement bien que je me disais, qu'est-ce que je me disais? Je vais passer après ça, qu'est-ce que je vais faire moi? C'était un couple, lui, il avait été en France jusqu'à l'âge de 7 ans et il était parti, il venait du nord de l'Afrique, il est parti au Venezuela avec son père pour des raisons professionnelles de son père, il avait 7 ans. Il a grandi au Venezuela, il s'est mis à faire de la danse, donc professionnellement. Il a rencontré sa femme des années plus tard, qui était danseuse aussi, mais danseuse à l'air professionnelle. C'est-à-dire qu'ils tournaient dans toute l'Amérique latine, et ils étaient deux troupes dans toute l'Amérique latine qui faisaient Buenos Aires, Rio de Janeiro. Ils allaient partout. Donc c'était les ballets Béjar. Enfin bref, c'était des vrais danseurs. Magnifique. Ils ont fait un truc. Oh là là. Moi, je me suis senti l'amateur éclairé du milieu évangélique français. Pas bien du tout, etc. Non content de faire de la danse, le gars, il était en train de faire un conte en français avec des personnages. Sa femme illustrait les personnages. Et surtout, j'ai vu leur fille de 16 ans qui n'avait plus vu ses parents danser depuis une année et demie parce qu'ils sont venus en France et personne ne les invite. Ils ne savent pas qu'ils existent, etc. Et ils ne dansent plus. C'est comme une cigale qui arrêterait de faire... Ils ne dansent plus. Et il y avait cette fille de 16 ans qui avait les larmes aux yeux en voyant sa mère qui était en train de danser de nouveau avec son père qui dansait. C'est quelque chose de très beau. Hein. Moi qui ne suis pas fan, j'étais là scotché. Je me dis, il y a quelque chose. Et là, il y a l'homme qui dansait, la femme qui dansait avec. C'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, je suis là, on en est au café, etc. Donc, le truc, non content de faire ça, Vlatipak, mes deux danseurs, poussent les tables et invitent tout le monde à danser. Et moi, je suis là. Il y a un moment donné, ça va être le mec qui casse l'ambiance, là. Arrêtez de danser, c'est bon, on arrête la fête. J'ai trois chants à faire, moi. Hein. Je suis mandaté pour ça, etc. Je me dis, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe dans une noce quand tout d'un coup, les tables se poussent et que les gens se mettent à danser? C'est fini. Heureusement, il y a un moment donné, quelqu'un qui a une espèce de... On va prier. Ça a calmé le truc. Ils ont prié pour les danseurs, etc. Moi, j'ai pris ma guitare vite fait en disant, s'il recommence à danser, c'est fichu. Vous voyez ce qui se passe dans la tête, hein, c'est pas très louable, mais c'est efficace. Hein. J'ai commencé mes petits accords, j'ai commencé un chant, et puis c'est bien passé. En plus, j'étais porté par tout ce qui s'était passé avant. Donc, au lieu que ça me desserve, ça m'a mis un plateau rouge. Là, c'était magnifique. Dieu a fait son travail, etc. Et je suis rentré, je partageais avec les organisateurs en disant, c'était magnifique, c'est dedans, ça m'avait vraiment marqué un homme. Un homme, une femme, une fille qui regarde ses parents danser, c'était le paradis sur terre. Il y a quelque chose, entre guillemets, j'en parlais avec Robert, etc. Le masculin, quand il prend sa place, hein, il y a quelque chose qui se passe dans le féminin, qui a une espèce de liberté. Ce n'est pas systématique, mais dans la danse, et quand c'est bien fait, c'est beau. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des cours de danse, et je voyais ce qui se passait quand je perdais le lead. J'ai appris du tango, là. Et j'étais avec une nana, et aujourd'hui les filles, c'est ça, elles disent hey, « fais comme ça, pas comme ça !» Donc toi, comme mec, t'es là, attends, laisse-moi au moins l'illusion que je suis capable de le faire. Parce qu'on est déjà plus pâteaux, hein, nous. Donc les filles, hein, disent « évitez ça, parce que ça nous t'aide. » C'est comme quand tu ouvres la portière à une fille, puis qu'elle la referme elle-même. Bon, d'accord. D'un autre côté, les gars, il faut aussi qu'on prenne notre place. Hein. Tu rouvres la portière, tu laisses tes mains comme ça et tu me laisses te bénir. Voilà. Ça demande un certain aplomb, mais des fois, il faut remettre les choses en place. Vous êtes d'accord, les filles? Vous aimez bien quand les mecs prennent leur place. Mais laissez-les la prendre. Sinon, on est là, on suce notre pouce. Non, on retombe en enfance. Bref. Donc, je vois ces danseurs et ça m'a vraiment édifié. Non seulement la danse, mais le regard de cette fille sur ses parents. C'est beau, hein, c'est pur. Et puis, le lendemain, je devais prêcher, je saute une grosse étape parce que j'ai réfléchi toute la nuit, je me dis, ça m'a fait quelque chose. J'ai vu quelque chose, je me dis, là, il y a une clé. Je leur ai dit, il faut absolument que vous tourniez. Je sais plus, j'ai perdu leur carte de visite, donc ne me demandez pas hein, c'est qui ces gens-là. Ils sont du Venezuela, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le lendemain, j'arrive dans une église pour prêcher. Je ne connaissais pas du tout l'église en question. C'est quelqu'un qui m'avait invité. Puis moi, j'essayais de faire en sorte, comme j'étais là sur place de toute façon, d'utiliser le fait que j'étais à Paris pour prêcher le lendemain. Et la pasteur, c'était une femme pasteur africaine, elle avait une extinction de voix. Donc c'est la seule raison pour laquelle je me suis retrouvé là-dedans. Parce que sinon, une église, je dirais à 80%, c'était des femmes. À 90%, c'était une église noire, africaine, en banlieue de Paris, comme ça. Et c'est sa fille qui faisait la louange. La même chose, je revis le même truc la veille. Elle commence, bam, présence de Dieu, le truc. Genre, t'as plus rien à faire, quoi. C'est du style, et moi, je dois amener la parole après. Donc, je suis de nouveau dans une position humiliante en disant, qu'est-ce que je vais apporter? Et vous savez, si je ne travaillais pas chez moi constamment sur ma dépendance à Dieu, qui stimule quand même l'humilité. Hein. Quand on est face à Dieu, on n'est pas grand-chose. Et c'est ça qui est important. Il y a ce passage, vous savez, les béatitudes, je ne sais pas, il y a une version de la Bible qui s'appelle la version Chouraki. Heureux les pauvres en esprit, je crois que c'est ça la version que j'ai moi. Lui, il dit, en marche les humiliés du souffle. En marche les humiliés du souffle. Quand l'esprit souffle, ça a quelque chose, ça nous rend humbles, quoi. Tu te dis, Dieu est tellement grand. Il fait tellement ce qu'il veut. Moi, à la limite, même considéré comme un privilège le fait d'être utilisé, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. Les gens ont peur, quand on est artiste, que tout d'un coup, on se la pète. Mais pour se la péter, il faut être à côté de ses pompes. Si on fait ça pour Dieu, je veux dire, ça a quelque chose, ça rend vulnérable. On ne sait pas comment Dieu va nous utiliser, on est sûr. On voit toutes les erreurs qu'on fait, les gens viennent nous dire, c'était super, etc. Toi, tu dis, c'était catastrophique, je veux rentrer chez moi, prendre une douche, me coucher, plus penser à ça. On n'a pas un bon regard sur nous-mêmes. Et les gens non plus, mais Dieu a un regard juste. Il a un regard juste. Donc je me retrouve dans ce truc avec tout le rituel. On était assis devant tout le monde, parce que dans les églises africaines, parfois c'est ça. Hein. Ils vous mettent des fauteuils, vous êtes devant tout le monde, là, installé, avec des verres d'eau, des machins. Non, une espèce de, tu te dis, bon, je dois être quelqu'un d'important, etc. Et des gens dans la prière commencent à prophétiser, des choses comme ça. Et je repense, évidemment, à la veille où je devais faire la même chose. J'avais amené quelque chose après ça. Et je me dis, mais en fait, après la noce de la veille, enfin, c'était comme une noce, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, les gens prennent leur voiture, même « Salut, hein, une prochaine hein, !» Tout le monde s'en va. Il y a quelque chose qui se termine à la fin d'une noce. Et je pense aux noces de l'agneau, les noces de Christ. Dans ma tête, je réalise, au moment où cette église, le lendemain, est en train de faire sa louange, qui est une louange qui est très forte, très dynamique, je me dis... La louange, c'est le truc qui va rester au ciel. On va continuer à louer et adorer Dieu. Hein. Et je réalise que je ne me suis jamais projeté, moi, au-delà des noces de l'agneau. Je ne sais pas vous, mais en fait, je me suis projeté à la limite sur la fin des temps. J'en entends parler, la fin des temps, j'ai une vague idée. Après, je me suis projeté dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, ça dure 7 ans, il y a un banquet, j'ai une petite idée de ça. Mais après ça... J'ai aucune idée. Et là, tout d'un coup, à cause de ce qui s'est passé la veille, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe après les noces? Je ne me suis jamais projeté aussi loin. Et ça tombe sous le sens. Il y a l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu au moment où je me suis projeté dans quelque chose qui n'était ni l'enlèvement, ni les noces de l'agneau, ni la fin des temps, ni l'Apocalypse, ni Armageddon, ni tout ça qui est dans l'Apocalypse. On ne comprend pas bien. Hein. Mais là, tout d'un coup, j'ai compris que ce que j'avais vécu la veille, c'était ça. Il y a quelque chose après ce qui est fini. Notre temps sur terre est fini. Enfin, je veux dire, il y a une fin. Les noces ont un temps. Ça va durer un certain temps. Et après, c'est l'éternité. Dans quoi? L'intimité avec Dieu. Alors, on le sait intellectuellement. Hein, et moi, tout d'un coup, c'est ce que je vous disais, c'est devenu matière en moi. Parce que j'avais vécu cette expérience la veille, parce que j'avais été confronté à quelque chose, je me dis, je ne peux pas aller plus loin. Il faut utiliser les circonstances de la vie pour essayer de l'appliquer dans ce qu'est le royaume, de comprendre quelque chose de Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Dieu est là dans toutes les circonstances de votre vie et il veut vous apprendre quelque chose. C'est un maître, c'est un pédagogue, il veut nous apprendre quelque chose. J'ai compris quelque chose sur l'intimité avec Dieu et finalement j'ai prêché là-dessus. J'avais jamais prêché comme ça, etc. Tant de louanges fortes, je me disais, la louange, ça va rester comme ça. Et vous savez, la louange, je dis ça à l'équipe de louange, ça devient de plus en plus important dans les églises, pas au niveau d'une hiérarchie. C'est qu'on a besoin de ça parce qu'on se rapproche du jour où on va vivre ça au ciel. Et moi, je nous encourage, l'équipe de louange, comme le peuple de Dieu, la louange, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous à quelque chose jusqu'à le toucher vraiment de ce qui va durer on et on and on and on jusqu'à la fin des temps. La louange restera. Les prophéties cesseront. La vallée de larmes, ça ne sera plus. Mais quelque chose va rester. C'est notre chant. C'est quelque chose que Dieu nous a donné le jour où on a donné sa vie. Vous avez vécu ça? Moi, j'ai vécu ça. tout d'un coup, alors moi je me suis mis à chanter, mais chez vous ça va se traduire par autre chose. Je parlais de ça au groupe de jeunes, on a tous reçu quelque chose de Dieu et on a une spécificité. Je le redis, une spécificité. Personne ne peut faire ce que Dieu a mis dans ta vie. Personne ne peut faire ce que Dieu va faire à travers toi. Et c'est ça qui fait qu'on se condamne les uns les autres, parce qu'on voit Dieu qui utilise quelqu'un, mais qui utilise quelqu'un autrement que comme il nous utiliserait nous. Et on est quoi? On est jaloux, on critique ou je ne sais pas quoi. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Où tout d'un coup, Dieu va prendre la substance de qui tu es, créé, made in heaven, estampillé par Jésus-Christ, comme un sceau sur la main de Dieu pour faire son travail. Parce que ce qui l'intéresse Dieu, c'est l'édification entre nous, mais c'est aussi les gens qui soupirent après la révélation des fils et des filles de Dieu. La nature elle-même soupire après ça. Vous voyez dans quel état elle se trouve la nature? On est en train de la déglinguer. La nature elle-même soupire après ça. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais il va s'occuper de sa maison. Parfois ça passe par le jugement de sa maison. On est jugé avant que Dieu juge le monde. Donc si Dieu vous adresse des problèmes dans votre vie, remerciez-le, parce qu'il a un projet pour d'autres que vous. On est trop centré sur nous-mêmes. L'Église est trop narcissique. Elle est trop en train de se regarder le nombril, etc. Et c'est ce qui fait qu'on se critique, etc. C'est comme des îles, des consanguins. On n'est pas des consanguins. On est une famille de Dieu. On a le même sang, mais si les gens se marient entre eux, il y a un moment donné, ça croupit, quoi. Il faut se tourner vers l'extérieur. Ne pas quitter les églises, non. Mais commencer à regarder avec cette curiosité qui est ce renouvellement de l'intelligence. Vous me suivez? Et cette espérance que j'ai touchée du bout des doigts, maintenant, je sais que je la porte. Et depuis que j'ai touché ça, tout ce que j'ai prêché avant me semble une peau morte comme ça. Comme un lézard, etc. Je veux dire, je devais prêcher dans mon église une semaine après ça. J'étais tellement bouleversé et changé, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais préparé tout le mois de novembre et le mois de décembre pour ma prédication. Je leur avais dit à l'Assemblée Générale, j'ai défriché le champ nouveau, je vais vous expliquer en janvier comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi. Et puis finalement, Dieu fait quelque chose juste avant. Tout ce que je disais, c'était... Mais moi, j'y croyais plus parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire, voilà, le champ nouveau est défriché chez moi, je commence à voir pousser quelque chose, ça s'appelle l'espérance. C'est en espérance que nous sommes appelés. On regarde le quotidien pour la pédagogie de Dieu, mais on est tendu vers quelque chose, et ça, mes amis, le monde le voit. Si votre espérance est une espérance, si l'amour de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est du style « Je suis le Fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection, j'ai un présent. Mon passé, c'est Christ. Tout est accompli. Mon présent, c'est Christ. Il est celui qui est. Avant que Abraham fût, je suis. Il est celui qui est maintenant. Et mon futur... Je ne sais pas vous, mais moi, il y a eu des époques quand je passe par des vallées de larmes et de tribulations. T'en es à te dire, Seigneur, enlève-moi de ce pétrin-là. Que je sois au ciel, enlève-moi de là. Ça m'est arrivé, peut-être pas à vous, mais ras-le-bol. C'est trop dur. C'est parce que je perds l'espérance. À un moment donné, je vais finir avec ce chant, et puis on aura un temps de Sainte-Cène après. Et il est sur mon album. Il s'appelle... Quand elle est là, et ça parle de l'espérance. Vous savez, le meilleur moyen de comprendre l'espérance, c'est le jour où vous l'avez perdue. C'est terrible. Quand il n'y a plus d'espérance, et justement, j'avais écrit ce chant, quand elle est là, je vous le dis une fois, je profite pour faire mon petit marketing, il est sur cet album, ça s'appelle Quand elle est là, les trois sont pour 30€, Sinon, celui-là est à 10 euros. Celui que j'ai écrit à Brumat avec mon assistant, M. Ridinger, timbalier au Philharmonique de Strasbourg. Attention, hein. Vous voyez, c'est des bonbonnes, ça. Ça, c'est de l'air, ça, c'est de l'eau. Eau, air, or. Rien que pour le concept, ça vaut 10 euros. Hein. Et celui-là, mon album, peut-être il y en a qui l'ont déjà, il est à 15 euros. Donc 15 euros, 10 euros pour les autres et 30 euros pour le tout. Voilà. Et je vous chante quand elle est là. L'espérance. Hein. Les gens disent de qui ils parlent, c'est de l'espérance. Je voulais l'appeler Esperanza, mais ça s'appelle quand elle est. Et je dis ça pour vous encourager parce que tout peut se vivre et se jouer en un seul battement d'ailes. L'espérance peut revenir chez vous, même pendant que je le chante. Tout peut se vivre et se jouer en un seul battement d'ailes. Tout peut se mettre à danser quand elle est là. Tout ce que j'aime et ce que j'ai n'ont rien de comparable à ses célestes bontés. Quand elle est là, quand elle est là, quand elle est là. Vous pouvez essayer de chanter avec moi, ça c'est une seule note, hein, la même. Quand elle est là, quand elle est là. Tout porte à croire, et c'est vrai, que je suis fou, c'est normal, de sa lumière et de sa paix. Quand elle est là, elle est si facile à aimer, qu'on l'aime tous, et sans mal, et sans simuler. À vous, quand elle est là, quand elle est là. À vous, et là, quand elle est là. On peut se lever en fait, on va bouger un peu. Je voudrais bien m'en saisir et en faire ma bataille et la cacher sous ma peau quand elle est là. Mais je sais trop bien qu'elle n'est pas de celle qui s'installe dans les murs de mes châteaux. À vous, quand elle est là, quand elle est là. Quand elle est là, quand elle est là. Et juste les femmes, on essaye bien fort. Et les gars, quand elle est là. Une dernière fois ensemble. Quand elle est là.